Qu'est-on devenir ? Puisque toutes les réalités que nous expérimentons sont dans le mouvement. Vous n'avez jamais expérimenté une réalité qui est au-delà du mouvement. Toutes les réalités que vous expérimentez sont dans le devenir. Par le fait même, notre manière de connaître, notre manière propre de connaître, c'est le point de vue de la distinction de la phusis, de la nature forme et de la nature matière. C'est ça qui est connaturel à nous. Nous sommes aussi des êtres en devenir. Par nos sens, nous sommes des êtres liés à ce monde en devenir. Nous sommes en connaturalité avec ce monde en devenir. Donc, ce conditionnement de notre manière de connaître, notre conditionnement humain de connaître, implique la distinction matière et forme. Par le fait même, c'est ce qui va conditionner toute notre manière de connaître. C'est pour ça qu'instinctivement nous prenons la distinction matière et forme. C'est très curieux. Et saint Thomas dans la Somme leur prend tout le temps, tout le temps. Matière et forme. On regarde le contenu et l'aspect formel. Vous voyez ? Alors évidemment, la distinction de matière et forme pourra prendre des modalités extrêmement différentes. Ce serait très intéressant à regarder pour voir que quelquefois c'est même en contradiction. C'est en contradiction, c'est-à-dire que c'est tout à fait autre chose. Je crois que c'est toujours analogiquement matière et forme. Alors, parce que c'est notre première manière de connaître, notre intelligence est capable de dépasser le devenir et d'atteindre l'être. Quand notre intelligence atteint ce qui est en tant qu'être, elle atteint quelque chose de nouveau. Elle est au-delà de la distinction matière et forme. Mais son conditionnement demeure. Je ne peux pas supprimer mon conditionnement. Autrement, je serais platonicien. Parce que Platon voudrait bien qu'on supprime le conditionnement humain et qu'on puisse connaître à la manière de notre âme séparée. Quand mon âme était séparée et qu'elle contemplait les dieux, mon âme n'avait pas ce conditionnement dans le devenir. Elle était une âme purement contemplative. Et cette âme purement contemplative, j'en ai la réminiscence, si je suis platonicien. N'est-ce pas ? Si je suis comme Platon, j'ai la réminiscence de cette distinction, de ce monde particulier dans lequel je vis, distinction de matière et forme. Donc, j'ai la réminiscence de ce monde au-delà de la matière et de la forme. Et c'est pour ça que Platon ne parlera jamais de l'ousia selon la matière, selon la forme. Parce que l'ousia est forme. Tandis que pour nous, elle n'est pas forme en tant que la forme se distingue de la matière. Mais elle est principe selon la forme, c'est-à-dire dans la direction de la distinction de la matière et de la forme. C'est ça que ça veut dire. Dans la distinction, c'est notre conditionnement qui est dépassé en saisissant l'ousia, mais ce conditionnement demeure, et c'est très vrai que la première distinction que je saisis, c'est la distinction matière et forme. Et donc c'est pour ça que je dirais que c'est un principe selon la forme. Oui, un peu subtil, mais en même temps, c'est très intéressant à bien saisir. Parce que ça montre comment je suis capable de distinguer, d'aller au-delà de la distinction matière et forme. Je suis capable de saisir autre chose que le devenir, mais cependant mon conditionnement humain demeure. Et ce conditionnement humain demeurant me permet de saisir un principe au-delà de cette distinction, mais dans l'orientation, dans la direction de cela. Oui, faites quelque chose comme ça. C'est très curieux du reste. Là, c'est là où on saisit toujours. Hein. Tout le temps arriver à préciser le conditionnement de ma vie intellectuelle et la finalité de ma vie intellectuelle. Mon intelligence est faite pour saisir ce qui est. Mon intelligence est faite pour saisir la vérité. Il y a un appétit naturel de l'intelligence qui dépasse tout le point de vue du monde physique, tout le point de vue du monde du devenir. Mon intelligence est faite pour dépasser cela. Elle peut aller beaucoup plus loin. Mais cependant, je reste toujours avec mon conditionnement humain. Je ne peux pas dire maintenant je vais changer de vitesse, hein, et puis je vais prendre la vitesse de mon intelligence séparée. Vous entrez au cours de métaphysique, laissez à la fois votre conditionnement sensible, n'est-ce pas, messieurs et mesdames, nous allons faire de la philosophie première, et bien laissez à la porte votre bon sens, votre manière habituelle, et puis nous allons planer. Nous allons aller dans une intelligence séparée. Alors à ce moment-là, évidemment, je saisis l'ousia, comme naturalité immédiate, je suis avec l'être. Et je vis, comme disait le père Garrigou, faites une promenade en compagnie des grands principes. Très bien. C'est l'immense avantage des grands principes, c'est qu'ils ne parlent pas. Vous voyez, alors ils sont dans le silence. Et alors je suis toujours seul avec moi-même. Les grands principes, ça ne me gêne pas. Mais de fait, nous ne pouvons jamais quitter notre conditionnement. Et donc, nous saisissons l'être à partir et au-delà du devenir, mais à partir du devenir. Donc, principe selon la forme. Parce que la distinction matière et forme correspond à ce qu'il y a de plus propre à mon conditionnement humain. J'espère que ça, c'est vu. S'il y a des difficultés, vous le redirez, hein, parce que c'est difficile, c'est un langage qui doit être très précis, mais qui est difficile à bien saisir. Attendez, là. Je vais lire ça autre part, parce que c'est écrit très fin, et mes yeux ne permettent plus ça. Si le jugement d'existence est commun à toutes nos expériences, ne doit-on pas retrouver une réalisation de l'ousia différente pour chaque partie de la philosophie? Faisons attention, le jugement d'existence, c'est le point de départ. Il est pré-philosophique. Il y a deux grands jugements d'existence. Ceci est. Quand vous dites ceci est, vous n'êtes pas encore au niveau philosophique. Vous êtes au niveau pré-philosophique, vous êtes dans l'attention de la réalité qui existe. Et saisir ce qui est, ce n'est pas de la philosophie. Toute la philosophie essaie d'atteindre ce point de vue-là, de retrouver ce jugement d'existence qui est au-delà, qui est le jugement humain. C'est mon jugement humain d'atteindre la réalité en tant qu'elle existe. Il y a ce premier jugement pré-philosophique. Et puis, il y a le jugement d'existence, l'être premier. Il y a une réalité première. Ce jugement d'existence qui est ultime, c'est un jugement d'existence ultime, à partir duquel il y a un jugement de sagesse. C'est très important. Vous avez deux mesures vis-à-vis de toute votre philosophie. La première mesure, c'est le jugement d'existence. Ceci est. Toute la philosophie reste en union, en communion, en continuité avec ce jugement d'existence. La seule chose qui intéresse le philosophe, c'est ce qui existe. Dès que je suis dans les possibles, autre très bien. Allez-y, ça ne m'intéresse pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'homme. L'homme existant, l'homme qui est. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je fais la philosophie uniquement pour ça. Les possibles, je les laisse au domaine mathématique. C'est ça qui intéresse le mathématicien. Je les laisse au domaine mathématique. Le possible, je le laisse aussi dans le domaine de l'artiste. L'artiste, lui, voit les possibles, là, tout de suite. Mais je le laisse. Je respecte l'artiste. Il est dans le domaine de l'inspiration et du possible. Le possible, je le laisse dans le domaine logique. Ça intéresse le logicien. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse au point de vue philosophique. Toute la philosophie demeure mesurée par le jugement d'existence. C'est pour ça que si vous supprimez le jugement d'existence, vous voyez, il n'y a plus de mesure. Et vous partez dans les possibles. Et toute l'autre partie de la philosophie, ça c'est la première partie de la philosophie. Toute la partie d'analyse demeure dans le jugement d'existence. Et ici, je suis dans le jugement de sagesse. L'autre jugement d'existence qui mesure aussi. C'est en référence avec l'être premier. L'être premier qui est le créateur. J'ai un jugement d'existence nouveau à partir de l'être premier. Et c'est ce qu'on appelle le jugement de sagesse. Vous avez donc deux mesures. Il ne faut surtout pas les confondre. Confondre ces deux mesures, c'est l'ontologisme. L'ontologisme confond ces deux mesures. Ceci est, il existe une réalité première. L'être premier existe. Parce que ce jugement d'existence, il est quelque chose d'ultime. Je le découvre progressivement. Il n'est pas pré-philosophique, lui. Il est pré-philosophique selon l'opinion des traditions religieuses. Et alors à ce moment-là, il ne m'intervient pas comme mesure. Donc il n'est pas pré-philosophique, il est au contraire le fruit de toute la recherche philosophique, le fruit de toute l'analyse philosophique, tandis que le jugement d'existence premier, lui, est mesure. Vous voyez, donc il y a deux mesures, dire le jugement premier, il est mesure, en ce sens qu'il est donné pré-philosophique. Celui-ci n'est pas pré-philosophique, il est ultime. Mais ce sont bien les deux mesures de la philosophie. C'est pour ça que vous avez toujours deux types de vérité en philosophie. La vérité par rapport à la réalité qui existe, l'homme, et la vérité par rapport au créateur, par rapport à l'être premier, jugement de sagesse. Alors vous voyez bien, si vous comprenez que ce jugement d'existence est pré-philosophique, il ne spécifie pas ma philosophie. Il est présent dans toutes les parties de la philosophie. Si le jugement d'existence est commun à toutes nos expériences, ne doit-on pas retrouver une réalisation de l'ousia différente pour chaque partie de la philosophie? Non. L'ousia est découverte au niveau de ceci est quand je mets l'être en pleine lumière. Mais si je dis ceci est dans la réalité du mouvement, je ne cherche plus l'ousia. Je cherche à connaître le mouvement. Donc c'est autre chose. L'ousia est découverte au niveau de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et uniquement, qu'est-ce que c'est que l'être? Quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une réalité qui est en mouvement? Je découvre la nature. Quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une réalité qui se meut, qui est vivante? Je découvre l'âme. Mais ce sont les différents niveaux de la détermination selon les parties de la philosophie. Mais la substance n'est qu'au niveau métaphysique. Je ne saisis pas la substance au niveau du devenir, je ne saisis pas la substance au niveau du vivant. Je ne la saisis qu'au niveau métaphysique. Alors, ça c'est tout à fait autre chose, mais ça ne fait rien, je le lis. Tu es Pierre. Pierre désigne la substance première. Tout à fait. Évidemment, quand Jésus dit « tu es Pierre hein, », Jésus ne pense pas à la substance première. C'est très bien, très bien. Voilà, on peut le prendre. Tu es Pierre, mais donc Pierre désigne la substance première. Mais il semble être attribut. Or, la substance première n'est pas... Faisons attention. Alors, tout simplement, qu'est-ce que quand tu dis « tu es Pierre », qu'est-ce que ça veut dire? La signification « tu es Pierre ». Pierre, toi, tu existes. C'est pas un attribut. Alors là, c'est une question de langage. Alors bon, très bien. Mais il semble être attribut. Or, la substance première n'étant pas forme, pas catégorie, donc pas attribuable, ne peut être attribuée. Vous voyez ? Alors là, tout à fait bien. Pourquoi Pierre est-il attribué à tu ? Mais parce qu'il est Pierre. Tu, c'est Pierre, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Le tu, le toi que tu vois, c'est lui que tu désignes. C'est toi, Pierre. Donc là, il y a identification, c'est pas un attribut. Il y a identification entre les deux. Alors ça, c'est le point de vue. Justement, quand vous dites tu es Pierre, c'est un jugement d'identification dans lequel vous n'attribuez rien du tout à tu. Il ne faut pas dire tu es sujet, Pierre est avant. Non, c'est pas comme ça que ça se dit. C'est pas ça que vous voulez dire. Quand tu dis tu es Pierre, tu désignes que Pierre, c'est celui-là qu'on désigne. Voici l'agneau de Dieu. C'est la même chose. L'agneau de Dieu, c'est cette personne que je désigne. Pierre, c'est cette personne que je désigne. Donc Pierre est pris comme sujet. Que désignes-tu? Oui, celui qu'on désigne, tout simplement. Quelle différence y a-t-il entre tu et Pierre ? Rien. Simplement, au point de vue du langage, au point de vue du langage, je désignais le tu, vous le désignez, Pierre, vous ne le désignez pas nécessairement. Pierre existe. Voilà Pierre. Tu es Pierre. Ça veut dire voilà Pierre. Et pour Pierre, tu es là. C'est toi. Donc, vous voyez. Alors, faisons attention à l'analyse grammaticale et puis à la réalité philosophique. Ça ne correspond pas tout à fait à la même chose. L'analyse grammaticale est au niveau de notre conditionnement. Toujours. La grammaire est au niveau de notre conditionnement. La philosophie, la pensée philosophique est au-delà du conditionnement. Il faut arriver à jongler de cette manière-là. C'est important. Ce que saint Thomas appelle le modus intelligendi. Le modus intelligendi ne correspond pas à la réalité qui est. Parce que ma manière de connaître n'est jamais adéquate au réel. Ma manière de connaître, et c'est autre chose que le réel. C'est ma manière de connaître, ma manière de connaître le réel. Or, une substance première, la réalité telle que je la désigne, c'est-à-dire Pierre, je peux le saisir de diverses manières. Je peux le saisir comme une donnée transcendante. Je peux le saisir comme celui avec qui je suis lié. Toi, appelle-le moi. Donc on s'est déjà rencontré. Toi, Pierre, hein, c'est la relation qui est entre toi et moi. Tandis que quand je dis Pierre, je ne dis pas nécessairement cette relation. Tandis que quand je dis tu, ah, tu dis tout de suite une relation. C'est pour ça qu'on aime d'être appelé tu. Tu es Pierre, parce que tu es en relation avec moi. Tandis que quand je dis Pierre, pas nécessairement. Oui. Dès que vous dites tu à quelqu'un, vous appelez la relation qui existe entre vous et lui. Ça, c'est très significatif quand on est dans des réunions diplomatiques, par exemple, hein, où les gens s'appellent objectivement, sans se dire, puis tout d'un coup, le « tu »,« ah, tu te souviens ?» Ah, mais évidemment, ça rompt l'aspect purement objectif, et ça rappelle qu'il y a une relation personnelle. Quand Jésus a dit « tu es Pierre », Jésus a montré la relation personnelle qu'il y avait avec Pierre. Mais cette relation personnelle, c'est avec Pierre. C'est Pierre en tant qu'il est substance première. Mais le « tu » exprime un aspect affectif par rapport au moi qui a rencontré Dieu. Ça suffit de comprendre. C'est une manière différente dont on aborde une réalité. Vous abordez une réalité dans des relations affectives. Vous abordez une réalité comme une réalité qui vous transcende, qui vous dépasse, auquel vous pouvez attribuer des grandes choses. Il suffit de comprendre que le modus intelligendi n'est pas adéquat à la réalité et que la réalité mesure le modus intelligendi. Bon, alors continuons notre petite recherche sur la substance. Nous avons vu les différentes voies, je ne vais pas revenir là-dessus, bien qu'il faut tout le temps y revenir, hein, parce qu'il faut essayer de saisir ce qu'est la substance. Maintenant, je vais essayer de réfléchir, hein, sur ce qu'est cette découverte de la substance. Je peux, ayant découvert l'ousia, comme principe, comme cause, selon la forme de ce qui est, habitiez-vous à dire ça. La substance, principe et cause, selon la forme de ce qui est. Découvrez-la en vous. Vous découvrez-la dans tu et Pierre. N'est-ce pas ? Et découvrez dans Pierre qu'il y a une substance. Dans toute réalité, toute personne que vous rencontrez, ce qu'on avait vu la dernière fois, dans l'ordre de l'amitié. On avait vu que dans l'ordre de l'amitié, il fallait aller plus loin et découvrir la substance. L'ami n'est pas la substance, c'est le tu. Oui. C'est la double démarche qu'on avait fait la dernière fois. Par l'amitié, on peut découvrir la substance. Mais par l'amitié, on découvre la substance, en comprenant bien que ce n'est pas le rapport affectif qui fait découvrir la substance. Dans le rapport affectif avec Pierre, ce rapport affectif, je ne découvre pas. Quand j'aime quelqu'un, je n'aime pas sa substance. La substance, je ne dis pas qu'elle n'est pas aimable, mais la substance n'est pas ce qui m'attire et qui fait que je l'aime. C'est Pierre que j'aime, ce n'est pas la substance. Pourquoi ? Parce que la substance est un principe, c'est une cause. Or, un principe et une cause n'est pas un bien. c'est dans l'ordre de l'être. C'est pas le bien. Le bien, c'est ce qui existe. Ce qui existe concrètement, c'est tien, substance première. La substance première dit plus que la substance principe selon ce qui est. On a bien vu, vous vous souvenez, substance première, substance seconde. Je vous ai dit ça. Ce qui montre bien que la substance première, qui est pierre, est toujours plus. Pierre est aimable, du moins, j'espère. N'est-ce pas ? Pierre est aimable. Je peux l'aimer. Et à ce moment-là, je l'appelle tu. Tu es mon ami, Pierre. Tu es mon ami, Pierre. Donc ça, c'est bien le point de vue d'amitié. C'est le rapport affectif. Ce rapport affectif, c'est avec la substance première. Je découvre que cette substance, que Pierre, mon ami, il existe. Et l'existence est au-delà de mon affectivité. Et l'existence qui est au-delà de mon affectivité, c'est nous, il y a. J'ai le coup au point de vue métaphysique. Oui. Mon amour s'arrête à Pierre, à la substance première. Mon amour n'atteint pas le Zia. C'est très curieux, ça. C'est très intéressant, parce que ça fait comprendre justement comment nécessairement, dès que je suis dans l'analyse, l'analyse de la philosophie première n'est pas adéquate à l'éthique. L'éthique regarde Pierre en tant qu'ami. La philosophie première regarde Pierre en tant qu'amusia première. C'est pour ça qu'il y a toujours une complémentarité entre l'éthique et la philosophie première. Dans l'éthique, je regarde les relations personnelles, affectives. Je suis responsable de mon ami. Je l'aime. Je suis responsable de lui. Dans le point de vue philosophie première, je suis au-delà de cette relation personnelle, au-delà, comprenez bien, je suis au niveau de l'être. D'une certaine manière, toujours la même chose, d'une certaine manière, la relation personnelle va plus loin, et d'une autre manière, la philosophie première va plus loin. C'est les relations que saint Thomas situe admirablement, et là il précise la position d'Aristote, entre l'être et le bien. Vous savez comment il situe ça? Il dit que l'être, au niveau de l'intelligibilité, est premier. Au niveau de la compréhension. Donc au niveau de la compréhension de mon intelligence, l'être est premier. Et le bien est premier dans l'ordre de la causalité finale. Donc dans l'ordre de l'exercice de mes opérations, le bien est toujours premier. Il est plus fondamental. C'est pour ça que ma relation que j'ai avec Pierre, tu es Pierre. Cette relation affective que j'ai avec Pierre va plus loin d'une certaine manière que ma découverte métaphysique. D'une certaine manière, du côté de l'exercice. De l'exercice affectif, ça va plus loin. J'atteins quelque chose que la métaphysique n'atteindra jamais. Il y aura quelque chose dans l'éthique que la métaphysique n'atteindra jamais. Si loin et si profond va mon regard métaphysique. Mais d'autre part, mon analyse métaphysique va plus loin que ma relation affective. C'est pour ça qu'il y a deux priorités. C'est très intéressant, ça. Parce que ça montre que la philosophie première est irréductible avec l'éthique. L'éthique étudie le bien, la métaphysique étudie l'être. Il n'y a pas une métaphysique du bien et une métaphysique de l'être. Il y a une métaphysique de l'être et il y a une éthique du bien. Ça, c'est très important à comprendre. Pourquoi il y a une métaphysique de l'être et pas une métaphysique du bien ? Parce que vous pouvez dire, moi, ça ne me va pas du tout. Moi, j'aime beaucoup plus le bien. Alors, je vais faire la métaphysique du bien, puis je vais faire l'éthique de l'être. Essayez d'inventer ça. Là, vous serez très original en faisant ça. Essayez de faire la métaphysique du bien et l'éthique de l'être. Pourquoi c'est la métaphysique de l'être et l'éthique du bien ? Pourquoi ? Il y a une raison. C'est pas parce qu'Aristote a dit ça, que saint Thomas a dit ça, qu'on va continuer de le dire. On croit qu'ils sont intelligents, donc il y avait une raison. Il faut découvrir la raison. Pourquoi ? Parce que la métaphysique c'est une analyse spéculative. Donc c'est dans l'ordre de l'intelligibilité. Or, l'être est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Vous ne pouvez pas aller plus loin. L'être s'oppose au non-être. Le non-être, c'est rien. Donc l'être épuise l'intelligibilité de tout. Tout ce qui existe a une certaine intelligibilité. L'être épuise l'intelligibilité. Vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'ordre de l'intelligibilité que dans l'ordre de l'être. Et ceci parce que justement le non-être, il n'est rien. Si le non-être était quelque chose, si le non-être était quelque chose, l'intelligibilité de l'être n'épuiserait pas tout. Il y aurait le non-être. Il ne serait pas épuisé par l'être. Mais comme le non-être est rien, on est tous d'accord que le non-être est rien. J'espère que le non-être est rien. Si le non-être, c'est déjà quelque chose comme accord. Hein. C'est un accord fondamental de dire que le non-être n'est rien. Parce que ça vous montre que l'être épuise toute intelligibilité. Tandis que le bien, est-ce que le bien épuise toute intelligibilité? Non. Le bien est second par rapport au bien, par rapport à l'être au niveau de l'intelligibilité. Il y a qu'à mettre le non-bien. Qu'est-ce que c'est que le non-bien? Le non-bien, qu'est-ce que c'est? C'est le mal. Bien, le mal existe. Vous ne pouvez pas dire que le non-être existe. Tandis que le mal existe. Donc il y a une intelligibilité qui échappe. Et donc une métaphysique du bien n'épuise pas l'intelligibilité absolue. Là, ça vous fait trembler. Hein. Si vous y réfléchissez, ça vous fait trembler. C'est vrai, c'est quand même assez curieux. Et c'est immédiat. Hein. On est bien obligé de le dire. Le non-bien existe. Il y a du non-bien qui existe. Le mal, il existe. Tandis que le non-être n'existe pas. Donc au niveau de l'intelligibilité, la métaphysique ne peut être qu'une métaphysique de l'être. Tandis que le bien, l'éthique, c'est mon action, c'est mon opération. Qu'est-ce qui finalise toutes mes opérations volontaires? C'est le bien. Toutes mes opérations volontaires sont finalisées par le bien. Donc le bien est vraiment ce qu'il y a d'ultime dans toutes mes opérations volontaires. Donc dans l'éthique. Donc l'éthique ne peut être qu'une éthique du bien et la métaphysique ne peut être qu'une métaphysique de l'être. Alors essayez d'inventer, il faut être original, hein, pour le plaisir d'être original. Alors essayez d'inventer une métaphysique. Ça, ça m'intéressera beaucoup de voir jusqu'où vous allez, n'est-ce pas? Jusqu'où vous allez? On peut essayer. Vous comprenez que l'éthique est d'ordre pratique et la métaphysique est d'ordre spéculatif, c'est-à-dire au niveau de l'analyse de l'intelligibilité. Tandis que l'éthique, on est au niveau pratique. Alors, ce qui est très important, ça c'est très important de voir qu'il y a quelque chose d'irréductible. Le bien a une priorité sur l'être. Dans l'ordre de l'exercice de la causalité finale. Mais c'est ce petit quelque chose que Pascal a senti. Les raisons du. Le cœur a des raisons que la raison ne comprend pas. Ça veut dire que le cœur qui est finalisé, ça ne peut jamais totalement se comprendre. Il y a dans l'amour quelque chose d'irréductible par rapport à l'intelligibilité. Si vous voulez rendre toujours l'amour intelligible, vous tuez l'amour. Terrible ça. Il n'y a qu'en Dieu où amour et lumière sont là. Et c'est le propre de Dieu. Ça, c'est vraiment le propre de Dieu. Lumière et amour sont là. Tandis qu'en vous, non, si vous voulez faire votre petit Dieu, hein, vous verrez ce que c'est. Hein. Vous tuerez l'amour. L'amour a quelque chose d'irréductible par rapport à l'intelligibilité. C'est très important ça. Ça, c'est à la base du respect de l'autre. Mais si vous voulez que tout soit limpide, rationnel, vous tuez. Vous tuez l'amour. Et vous voulez remplacer l'éthique par la métaphysique. C'est du propre. Vous remplacez Pierre par Ousia. Vous verrez ce que c'est qu'Ousia quand il se balade tout seul. C'est quelque chose de très aimable. Sinon, il n'y a plus d'amabilité, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus que le rationnel. C'est ça le rationnel. C'est la différence entre l'intelligible et le rationnel. Le rationnel veut tout. Il veut tout dominer. Alors, à ce moment-là, vous supprimez le primat du bien par rapport à l'être. Dans l'ordre pratique. Dans l'ordre pratique, le bien a une priorité irréductible par rapport à l'être. Et dans l'ordre spéculatif, l'être a une priorité irréductible par rapport au bien. Ça, c'est capital à comprendre. Il ne s'agit pas uniquement de le répéter. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend absolument pas le réalisme de la philosophie. Donc ça c'est capital, il faut y réfléchir, c'est difficile. Hein, c'est difficile, il faut le bien comprendre soi-même, pas seulement répéter, mais le comprendre soi-même, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie exactement, cette irréductibilité du bien par rapport à l'être et l'irréductibilité de l'être par rapport au bien. Oui, parce qu'alors c'est là où on saisit les deux grandes actions, les deux grands aspects de notre philosophie, éthique et métaphysique. Et toujours les deux en parallèle. Donc pas uniquement dire « moi je me spécialise en métaphysique ». On ne se spécialise pas en philosophie. C'est ça qui est terrible. On ne peut pas. On peut aimer plus, mais on ne peut pas. On doit respecter toujours, parce que c'est la recherche de l'homme. Donc on ne peut pas se spécialiser. On doit accepter que la philosophie implique toujours ses branches diverses. Bon, alors, si je regarde l'Ousia comme principe, j'essaie de comprendre maintenant qu'est-ce que c'est que ce principe. Je dis d'abord que ce principe est immanent à la réalité. C'est quand même très important. C'est un principe immanent. C'est une source de toutes les autres déterminations, c'est un principe immanent à cette réalité. Comme principe, un principe peut être immanent à la réalité qu'il détermine, à la réalité dont il sort et dont il détermine. Donc, c'est un principe immanent. Ce principe est source de toute intelligibilité, puisqu'il est source de toutes les déterminations. Mais il n'est pas l'intelligibilité. Ça, c'est intéressant et important de saisir la différence qui existe entre l'ousia. Nous avons déjà vu un peu ce que c'était ce toti en énagne. Hein. Traduit en latin, n'oubliez jamais quoi ni erat esse. Ça, c'est du très mauvais latin. Hein. Ça ne s'avère rien. C'est du latin particulier qui est une traduction directe du grec. Déjà, ça, c'est du très mauvais grec. Hein. C'est un mot qu'Aristote a inventé. Il l'a inventé pour montrer la différence qui existe entre l'ousia, principe d'être, et le totiena, principe d'intelligibilité. C'est pour voir la distance qui existe entre les deux. Que le principe d'être et le principe d'intelligibilité ne se confondent pas, ne s'identifient pas. C'est pour ça qu'il a inventé le totiennénal. Alors ça, c'est très important. Une fois qu'on a découvert l'ousia, de comprendre que l'ousia est principe d'intelligibilité, mais n'est pas l'intelligibilité. Alors, je vais essayer avec vous de vous rappeler, d'essayer de comprendre un tout petit peu ce que représente cette formule. Il faut la comprendre, parce qu'elle est présente à travers toute la philosophie. Même des gens qui ne sont pas du tout aristotéliciens emploient le point de vue de l'acuité, emploient le point de vue de l'acuité ou de l'essence ou de l'intelligibilité. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire exactement. Alors, d'abord la composition de ce mot, je vous ai déjà dit, saisir à l'intérieur du to einai le tien. C'est ça qu'il faut saisir. Saisir à partir du fait d'exister, le tiède, c'est-à-dire ce qui demeure dans la réalité. Ce qui est, ce qui était. C'est l'imparfait, donc c'est quelque chose qui demeure. Le tiède, l'interrogation. Tiesti. C'est pas le tiesti, c'est le tiède. Qu'est-ce que c'est que ce qu'il y a de fondamental et de premier dans le fait d'exister? Donc c'est une recherche d'intelligibilité à l'intérieur du toi et moi. C'est ça qui est très important à comprendre. C'est à l'intérieur du fait d'exister qu'on essaie de saisir le tiède. En latin, c'est le quid erat. Qu'est-ce que c'est? C'est le quid. C'est le tiède. À l'intérieur du fait d'exister. Alors, comme c'était un peu trop long, on a traduit, on a simplifié en disant quid ditas. Vous comprenez, quid ditas, c'est très très loin du deuxième énal. Et on a traduit en français, pour ne pas se fatiguer, quidité. Donc, quand vous entendez quidité, c'est un terme classique, quand vous voyez quid ditas dans saint Thomas, pensez toujours au toti enenam. Ça, il faut avoir un réflexe immédiat pour comprendre que quidité, c'est le toti enenam, c'est-à-dire l'intelligibilité première de la réalité qui existe. L'intelligibilité fondamentale de la réalité qui existe. Toti enenam. Alors, on est dans l'ordre donc de l'intelligibilité première. C'est pour ça qu'Aristote dira que le toti enenam, c'est le katoto. Ça, c'est aussi bien. Je vous donne ces choses-là parce que c'est quand même des termes techniques. Katoto, ça se traduit en latin per se. C'est intéressant, per se. Ce qui est par soi. Ce qui est selon soi, katoto. Selon soi-même. Eh bien, le toti enenam, c'est ce qui est selon soi-même. Pierre est un homme. Homme est quidité de Pierre. Parce que Pierre est avant tout et en premier lieu. Vous voyez ? Parce qu'en français, on dirait avant tout et en premier lieu. C'est le katoto. Ce qui est avant tout et en premier lieu, c'est le per se latin. Per se s'oppose au per accidens, hein, il ne faut jamais l'oublier. Je vous dis ça parce que ce sont des petits termes qu'il faut se rappeler. Kata sub bebekos, en grec. Alors, le per se s'oppose au per accidens, c'est une position entre les deux. Perachidens, c'est ce qui vient s'ajouter à l'extérieur. Vous mettez un chapeau sur votre tête, c'est du perachidens par rapport à votre physionomie. Hein. Peut-être que ça fait un effet bœuf, mais ça c'est autre chose. Hein. C'est du perachidens, c'est quelque chose d'ajouté. C'est pas vous. Tandis que le katoto, ce qui est vous-même, c'est homme. Est-ce que l'intelligence, c'est votre katoto? Ça dépend des jours. Hein. De temps en temps, c'est du perachidens. C'est quand même le katoto. L'intelligence fait partie de l'homme essentiellement. Un homme qui perd son intelligence, il perd plus que son chapeau. Ça c'est sûr. Le chapeau est de l'archimède, tandis que l'intelligence c'est du katoto. Alors on distinguera les quatre katoto. C'est des choses techniques que je vous donne là. De temps en temps, il faut bien faire un peu de technicité parce que c'est nécessaire. Autrement, vous ne pourrez pas lire saint Thomas. Vous ne pourrez pas lire Aristote. Vous serez arrêté devant ces choses-là. Alors, il y a quatre katotos. C'est génial, tu vas avoir découvert ça. Dans les analytiques, ils découvrent les quatre katotos. Les quatre percées. Alors, je vous les donne. Mettez ça, hein, n'est-ce pas, une petite... Il faut peut-être de temps en temps avoir un petit lexique comme ça. Hein, des choses qui sont... Des choses qu'on doit apprendre, on doit savoir ces choses-là. Quatre katoto. Alors, il y a quatre percées. Le premier, c'est celui de l'essence, de l'acuité. L'acuité exprime ce premier katoto qui est celui de l'essence. Ce que Pierre est essentiellement primo modo, c'est-à-dire en premier lieu. Il est homme. Il y a le second katoto qui est celui de la propriété. Pierre est intelligent, ou bien Pierre est capable de rire. Avec un joue un petit rôle devant lui, il se met à rire, n'est-ce pas ? Il est capable de rire, la propriété. Pierre est capable de développer son intelligence, il est capable d'acquérir des habitudes. C'est la propriété. Puis il y a le troisième katoto, qui sera le katoto qu'on dira du solitaire. Nous y reviendrons. C'est pour ça que je vous le donne tout de suite, parce que ces choses-là, c'est celui de celui qui subsiste en soi. C'est la subsistance, le troisième katoto. Celui qui subsiste solitaire. Il est capable d'exister en lui-même. Il n'a pas besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Il a l'autonomie dans l'ordre de l'être. Avoir l'autonomie dans l'ordre de l'être, c'est justement pas obligé de s'appuyer sur un autre. On existe par soi. On subsiste. Et le quatrième katoto, c'est celui de l'opération. L'architecte construit. Le sitariste, sitariste. Hein, comme pour la traduction de Perosti. En se servant des sitars. Donc il sitarise, il joue. Le pianiste joue. C'est un quatrième percé, c'est le percé de l'opération. Qui caractérise notre opération propre. C'est celui de l'opération, donc c'est celui de la finalité. C'est très important parce que ces quatre percées montrent les quatre lignes de nécessité. C'est pour ça qu'Aristote donne ça dans les seconds analytiques, c'est-à-dire dans le point de vue logique. Il nous montre les liens de nécessité. Les liens de nécessité sont dictés par ces katoto, qui montre les possibilités qu'il y a d'une structure scientifique dans le sens aristotélicien. Fermez la parenthèse. Fermez la parenthèse, c'est les quatre katoto. Ça, c'est excellent. Une excellente question, ça, pour les examiner. Ah oui, j'ai entendu dire ça, mais j'ai complètement oublié ce que c'est. Il faut le savoir, ça, il faut savoir ces choses-là. C'est des petites clés que voulez-vous. On vous donne une clé, c'est une clé particulière de regarder les quatre ramifications d'une réalité. Quatre ramifications. L'essence, ce qu'elle est essentiellement, sa cuité, son intelligibilité fondamentale, sa propriété, sa subsistance. Son opération. Tout ça, on a la réalité existante. Pierre. Pierre est homme, Pierre est capable de rire, Pierre subsiste en lui-même, Pierre, étant donné qu'il est architecte, il construit. Étant donné qu'il a l'habitude de sagesse, il contemple. Pierre est contemplatif. Alors vous voyez, quand je dis Pierre est contemplatif, est-ce que je souligne le quatrième katoto ? Non. C'est quand je dis Pierre a l'habitus de sagesse, il contemple. Alors là, je souligne un lien de nécessité. Autrement, il n'y a pas le lien de nécessité qui est souligné. Je le souligne en montrant justement qu'il y a en lui cette capacité de contempler, qu'il contemple. Bon, alors... Comprenez bien, je reviens à l'acuité. Je dis que la substance est principe d'intelligibilité. Tant que je n'ai pas saisi la substance de la réalité, donc de moi-même ou de Pierre, tant que je n'ai pas saisi la substance, je n'ai pas été jusqu'au bout dans la recherche de l'intelligibilité. La source de toute intelligibilité, c'est la substance. Mais la substance n'est pas la quidité. Je ne peux pas identifier substance et quidité parce que la substance est principe dans nos deux lettres, alors que l'acuité, c'est simplement l'intelligibilité. Or, l'intelligibilité n'est que la propriété de ce qui est. L'intelligibilité n'est pas identique à ce qui est. Ce qui est plus que son intelligibilité, parce que ce qui est sous intelligibilité. Et l'intelligibilité, c'est quelque chose de second. Alors, une fois que j'ai saisi ça, je vais préciser maintenant, qu'est-ce que c'est que l'intelligibilité des choses? Qu'est-ce que c'est que l'intelligibilité des choses? Eh bien, l'intelligibilité d'une réalité, c'est ce par quoi cette réalité est capable de déterminer mon intelligence. C'est ce par quoi cette réalité est capable de déterminer mon intelligence. Toutes les réalités, je peux les connaître. Pourquoi ? Parce que toutes les réalités ont quelque chose qui est capable de déterminer mon intelligence. C'est ce que saint Thomas appellera le vrai ontologique. Le vrai ontologique, c'est l'intelligibilité fondamentale capable de déterminer mon intelligence. Donc vous voyez, et c'est ça qui est intéressant à voir, l'intelligibilité, c'est la relation de la réalité par...